Bon, on va continuer notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. Ce soir, nous sommes rendus à la première épître de Paul à Timothée. Alors, dans notre étude de la première épître de Paul à Timothée, nous allons examiner les points suivants. On va d'abord commencer par une courte introduction aux épîtres dites pastorales. Donc, on rentre dans la section de la Bible qu'on appelle les épîtres pastorales. Donc, il y a trois épîtres à l'intérieur de cela. Il y a 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. On va regarder aussi l'arrière-plan du livre de 1 Timothée. Donc, son auteur, ses destinataires, le lieu et la date de composition. Aussi, son contenu, son but principal, ses thèmes et sa structure littéraire, ainsi que les plans du livre et quelques observations. On va d'abord faire les quelques remarques sur les épîtres pastorales. Les trois épîtres qui constituent le dernier groupe des écrits de Paul dans le Nouveau Testament sont généralement connus sous le nom d'épîtres pastorales. On les appelle ainsi parce qu'elles traitent surtout de l'œuvre pastorale de l'Église et des devoirs des ministres de Dieu. Ce titre s'applique mieux à 1 Timothée et à Tite qu'à 2 Timothée, la lettre qui est surtout personnelle, mais quand même inséparable des deux autres. Ces trois lettres ont en effet un grand nombre de points communs. Elles sont écrites vers la fin de la vie de Paul à deux collaborateurs et non à des églises. Elles traitent surtout des problèmes de discipline et de vie d'église, contiennent aussi des conseils aux serviteurs de Dieu exerçant un ministère pastoral dans l'église. Envisagent aussi les mêmes aspects de la doctrine, combattant les mêmes hérésies, et sont liés par une proche parenté de style. Ce sont des lettres très précieuses. La plupart des conseils donnés par l'apôtre sont valables pour tous les chrétiens. Elles nous apportent sur la vie intérieure et sur l'organisation des églises des renseignements qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Ces épîtres sont adressées à des serviteurs de Dieu pour leur rappeler leur tâche pastorale, à la fois supérieure et pratique. Elle suppose donc acquis l'enseignement général de Paul. Timothée et Tite ont accompagné l'apôtre dans ses voyages. Ils l'ont entendu prêcher, exhorter, redresser des erreurs. Il n'est donc pas étonnant que nous ne trouvions dans ses lettres aucun exposé des grandes doctrines. Pas d'exhortation générale à la foi ou à la rectification d'hérésie comme dans les épîtres adressées à des églises. Pourtant, en regardant de plus près, on se rend compte que tout en s'adressant à Timothée et Tite, Paul s'attendait à ce que les lettres soient lues par les autres responsables et membres des églises. Les lettres sont destinées à encourager ses collaborateurs et à leur mettre en main des directives écrites qu'ils pourront toujours consulter et auxquelles ils pourront se référer en cas de contestation. Deuxième point qu'on regarde, l'arrière-plan de la première épître de Paul à Timothée, donc l'auteur. Les théologiens et érudits conservateurs l'attribuent à l'apôtre Paul. Certains critiques libéraux sont allés jusqu'à les attribuer, autrement dit les épîtres pastorales, à un faussaire et auteur inconnu du milieu du IIe siècle. Fait significatif, cette opinion extrême a maintenant été abandonnée d'une façon générale à cause des très nombreuses preuves internes et externes de l'Épître. En fait, L'attaque contre l'authenticité des épîtres signées de Paul touche Dieu lui-même. S'il n'a pas empêché ou su empêcher l'introduction d'un faux dans le recueil des Saintes Écritures, il n'est pas Dieu, du moins pas le Dieu que la Bible nous présente. Aussi, rien d'étonnant à ce que les églises se vident dans la mesure où la critique négative et impie y pénètre. Les destinataires. Telle qu'elle se présente, la lettre est un écrit privé adressé à Timothée de la part de son mentor, destiné à lui transmettre les directives dont il a besoin pour son travail. Cette lettre est assurément une lettre personnelle adressée à un individu, quel qu'ait été l'usage public que le destinataire aurait pu supposer faire de l'enseignement qu'elle contient. Le lieu et la date de composition. L'épître fut probablement écrite de la Macédoine, la ville de Philippe, en 63 après Jésus-Christ. Troisième point qu'on va regarder, c'est le contenu de 1 Timothée. La salutation est suivie d'une mise en garde contre les faux enseignants de la loi qui encouragent les controverses au lieu de faire avancer l'œuvre de Dieu. Paul exprime sa reconnaissance pour la manière dont la miséricorde et la grâce de Dieu ont été à l'œuvre en lui. L'Épître vise à aider Timothée, qui combat le bon combat. Paul exhorte à prier pour tous, en particulier pour ceux qui sont en position d'autorité, afin qu'ils puissent établir pour les populations des conditions favorables au salut. Après une réflexion supplémentaire sur l'esprit dans lequel il faut prier, Paul passe à la manière dont les femmes doivent se vêtir et vivre. Puis, il aborde les qualifications des évêques et des diacres, avec une brève section sur les femmes des diacres. Il explique sa préoccupation pour la famille de Dieu et cite un court poème sur l'incarnation. Suit une mise en garde supplémentaire contre les enseignants de mensonges, puis quelques observations adressées à Timothée, l'invitant à être un bon serviteur du Christ et à ne pas négliger le don qu'il a reçu lorsqu'on lui a imposé les mains. Paul donne des conseils sur la manière de traiter les hommes âgés et jeunes, les femmes âgées et jeunes, et les veuves. Il ajoute des instructions spécifiques concernant les anciens, le comportement de Timothée et les esclaves. Une fois encore, Paul met en garde contre les enseignants de mensonges et l'amour de l'argent. Il recommande à Timothée de fuir ce genre de comportement, l'exhortant à vivre dans la droiture. Timothée doit ordonner aux riches de faire le bien et donc d'amasser un trésor là où c'est important. La lettre s'achève par une autre exhortation adressée au jeune ami de Paul, être ferme dans la foi. Enfin, Paul termine par une parole de bénédiction. Quatrième idée qu'on va regarder, c'est le but principal de 1 Timothée. L'occasion et le but de l'épître sont clairement indiqués au début de la lettre. Dans son discours aux anciens d'Éphèse, Paul avait prédit les ravages des faux docteurs. Sa prophétie s'est réalisée et dès qu'il a été libéré, l'apôtre s'est rendu à Éphèse pour affronter les fauteurs de troubles. En quittant la ville pour la Macédoine, il a laissé son aide de camp sur place afin de continuer la lutte contre les hérétiques. Il espérait revenir bientôt, mais arrivé en Macédoine, il se rend compte que son retour pourrait tarder. Si la lettre a été écrite peu avant l'épître à Tite, Paul était peut-être sur le point de changer ses projets et d'envisager l'éventualité d'un voyage vers l'ouest avant son retour à Éphèse. C'est pourquoi il prend la décision d'écrire cette lettre. Donc, il y a deux buts principaux. Il y a un but personnel et un but ecclésiastique. Regardons d'abord le but personnel. En réfléchissant aux différents aspects du travail qu'il a laissé à son collaborateur, Paul a dû penser qu'il lui serait utile d'avoir une sorte de description de fonction qui soit écrite. Il pourrait ainsi mieux maîtriser les diverses tâches de sa mission et situer ses priorités. Il lui écrit afin qu'il sache comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, comment il doit enseigner, exhorter, diriger le culte public et choisir ses collaborateurs. L'Esprit de Dieu, qui a inspiré cette pensée à l'apôtre, s'est servi de cet écrit tout au long des siècles pour préciser les différents aspects du ministère des serviteurs de Dieu. Leur attitude envers les différents groupes de chrétiens, l'enseignement et l'exhortation, le culte et la prière en public, le choix de bons collaborateurs. Maintenant, le but ecclésiastique. Dans le contexte d'opposition dans lequel Timothée se trouve, son ministère et ses initiatives seront certainement contestées, surtout si l'apôtre tarde à revenir. Il aura donc besoin d'un ordre de mission officiel pour justifier son action qui comportera un certain nombre d'interventions correctives et même répressives. Il devra pouvoir les justifier par l'autorité apostolique qui lui a été déléguée. C'est la raison d'être du titre officiel que Paul se donne dans l'entête. Cinquième point, les thèmes et la structure littéraire de 1 Timothée. Dans sa première lettre à Timothée, Paul cherche à guider son jeune assistant, qui est un peu moins expérimenté, dans sa lourde responsabilité de surveillant de l'œuvre à Éphèse et d'autres villes d'Asie. Il écrit en effet pour défier Timothée de compléter la tâche qui se trouve devant lui, combattre les faux enseignants par de la saine doctrine, développer son leadership et d'autres leaders, enseigner la parole de Dieu et encourager la conduite sainte des chrétiens. À cause du caractère personnel, l'épître est structurée autour de 5 sections qui traitent de doctrine, chapitre 1, d'adoration publique, chapitre 2 et 3, du danger des faux enseignants, chapitre 4, de la discipline d'Église, chapitre 5, et des motifs pastoraux, chapitre 5 aussi. Sixième point qu'on va regarder, c'est les plans de la première épître à Timothée. Alors, comme je le fais à chaque leçon, j'ai mis deux plans. Un que j'ai intitulé un plan succinct de 1 Timothée, donc c'est un plan résumé avec les principales divisions. Et si jamais quelqu'un veut faire une étude, je recommande très fortement d'utiliser ces plans-là et de regarder à l'intérieur de l'épître comment ce plan-là se développe. Et on a exactement le même plan, mais plus détaillé. Donc, il y a deux plans, un plan succinct et un plan détaillé. Donc, avec le plan détaillé, vous avez vraiment plus de détails. Et c'est un outil de première main, de très important pour bien étudier un livre et bien le comprendre, mieux se souvenir de son contenu aussi. Donc, la septième idée, c'est quelques observations sur la première épître de Paul à Timothée. La lettre est très personnelle. On apprend ailleurs dans le Nouveau Testament que Paul était très lié à Timothée. Il parle de son affection pour le jeune homme et se déclare convaincu de sa fidélité. Paul ajoute que Timothée pourra rappeler aux Corinthiens sa propre façon de vivre, ce qui laisse supposer une certaine proximité entre les deux hommes et montre la confiance que Paul lui accordait. En témoigne le fait qu'il compare sa relation avec Timothée à celle d'un père avec son fils. Et sans se préoccuper de questions de cohérence, parle de lui comme d'un frère, compagnon de travail. Mentionne aussi Timothée dans ses salutations d'ouverture de six de ses épîtres, qui sont 2 Corinthiens, 1 Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens 1 et 2, et aussi Philémon. Ce qui indique qu'il était un collègue digne de confiance. Paul demande aux Corinthiens de veiller à ce que Timothée n'ait rien à craindre s'il devait les visiter, ce qui semble indiquer un certain manque d'assurance du jeune homme. Il l'envoie chez les Thessaloniciens, leur dit-il, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi. Et il projette de l'envoyer aux Philippiens, expliquant « Il n'y a personne ici, en dehors de lui, pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. » Tout cela donne du relief à la salutation de Paul. Paul salue Timothée, son véritable enfant dans la foi. La lettre est écrite à un jeune homme pour qui l'apôtre a beaucoup d'affection, à qui il a confié depuis des années d'importantes missions. Ce que Paul lui dit en lumière, le fait que les chrétiens sont liés les uns aux autres dans le service du Seigneur et qu'ils peuvent se venir en aide les uns aux autres de manière utile. La lettre est également importante parce qu'elle éclaire la question des ministères dans l'Église chrétienne. Au fil des siècles, le ministère chrétien a fini par revêtir une grande importance. Il a pris diverses formes, parfois très autoritaires, d'autres fois égalitaires. Dans certains cas, il est devenu très hiérarchique, tandis que dans d'autres, l'idée même de hiérarchie fut récusée. Quelle que soit la manière dont on l'a compris, il s'est trouvé au cœur de l'organisation ecclésiastique. On découvre donc avec surprise que le Nouveau Testament, en dehors des épîtres pastorales, n'en dit que très peu, ne dit que très peu de choses. Et lorsqu'il le fait, il parle de formes comme celles d'apôtres ou de prophètes qui, au sens strict, ont cessé d'exister. Il est donc important de noter que 1 Timothée a beaucoup à dire sur les ministres, plus ailleurs que dans tout autre écrit du Nouveau Testament. Dans cette lettre, Paul ne dit rien d'une ordination, à moins que ce ne soit qu'il ait à l'esprit lorsqu'il parle des prophéties prononcées autrefois à ton sujet, ou du don reçu lorsque les anciens lui ont imposé les mains. Dans les deux cas, c'est en effet possible. Mais Paul ne mentionne pas, d'ordination explicite. Et les deux textes sont susceptibles d'une autre interprétation. Quelle que soit la façon dont on comprend ces textes, ce qui compte pour Paul, c'est que ceux qui exercent un ministère soient des gens droits, des responsables dont le caractère soit au-dessus de tout soupçon. Il donne donc des instructions à propos des évêques. Le mot gagnerait à être traduit « surveillant ». En effet, il n'y a pas de raison de penser qu'à l'époque néo-testamentaire, la charge comprenait en quoi que ce soit les fonctions qu'il en vint à avoir dans l'Église et qui nous viennent à l'esprit lorsqu'on utilise aujourd'hui le mot « évêque ». Toutefois, cette traduction cache le fait que c'est cette charge et aucune autre qui évolua rapidement vers l'épiscopat monarchique. L'un des problèmes qui se pose à propos de l'histoire ancienne des ministères, c'est que l'on ne sait pas précisément quelle fonction exerçait l'évêque du Nouveau Testament. Le titre semble toutefois parallèle à celui d'ancien ou de pasteur. Paul s'intéresse davantage au caractère de la personne qu'à ses activités ecclésiastiques. L'Église a trop souvent inversé cette priorité. 1 Timothée a valeur permanente en ce qu'il souligne la vérité, selon laquelle la qualité de la vie chrétienne, même si elle n'est pas la seule caractéristique exigée, est d'une importance primordiale pour le discernement des personnes qui conviennent à l'exercice d'une charge dans l'Église. Bien qu'on s'accorde généralement pour dire que l'ancien et l'évêque étaient identiques dans l'Église de cette période, Paul ne les identifie pas explicitement dans cette lettre comme il le fait en Tite, chapitre 1, versets 5 à 7. Pourtant, il ne les différencie pas non plus et il n'y a pas raison de penser que, au chapitre 5, versets 17 à 19, ça fait référence à qui que ce soit d'autre qu'aux évêques du chapitre 3. Les anciens, apprenons-nous, sont activement impliqués dans la direction des affaires de l'Église, même si la forme que prend leur direction n'est pas précisée. À l'évidence, certains avaient des fonctions administratives et d'autres s'occupaient de prédication et d'enseignement, ces derniers étant tout particulièrement distingués comme dignes d'un honneur particulier. Paul combine un texte de l'Ancien Testament avec une parole de Jésus pour mettre en lumière la vérité selon laquelle les anciens doivent être rémunérés pour leur travail. Il précise bien que l'ancien ne doit pas être accusé à la légère. Paul a quelque chose à dire sur les diacres et, une fois encore, l'accent porte sur le caractère avec une insistance particulière sur la vie familiale. Entre ces deux mentions vient une autre qui pourrait faire référence aux femmes des diacres. Paul ne précise pas à propos des diacres, contrairement à ce qu'il fait à propos des surveillants anciens, qu'ils doivent être capables d'enseigner. Dans les deux cas, cependant, l'accent porte sur le caractère et la conduite. L'Église a trop souvent négligé cette insistance. Elle a connu des luttes alors que certains tentaient d'exercer une autorité de grande envergure et que d'autres leur résistaient vigoureusement. Des débats ont porté sur la question de la reconnaissance des ministres d'une Église par une autre. Le caractère valide des ministères ordonnés a suscité d'importantes réflexions. D'ailleurs, dans le mouvement œcuménique moderne, la reconnaissance des ministères a suscité un intérêt profond. La forte insistance sur le caractère que contient cette lettre est de la plus grande importance, elle est couplée à un contournement total de tout ce qui implique l'expression « caractère valide des ministères ordonnés ». Cela ne signifie pas qu'il faille négliger les dispositions à prendre pour la reconnaissance des ministères. Mais Paul enseigne à l'Église tout entière qu'il existe des considérations plus importantes que les dispositions à prendre pour une cérémonie d'ordination ou de reconnaissance de ministère. S'il y a donc beaucoup à dire sur la manière dont doivent vivre ceux qui sont appelés au ministère, il ne reste pas silencieux sur la conduite des autres membres de l'Église. Paul insiste sur l'importance de la prière et sur la façon dont les croyants doivent se comporter, notamment les femmes, les croyants en général, les personnes âgées et les jeunes, les veuves, les esclaves et les riches. Selon leur position, les personnes ont des devoirs différents, mais tous ceux qui se prétendent chrétiens doivent veiller Est-ce que leur vie reflète leurs convictions? La lettre rappelle à ses lecteurs l'importance d'un mode de vie juste. 1 Timothée s'élève également contre les controverses inutiles. La lettre contient des mises en garde contre ceux qui ne cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention et à des généalogies interminables, récits absurdes et contraires à la foi. Ceux qui interdisent le mariage et imposent des règles alimentaires sont également condamnés. Et Timothée est mis en garde contre une passion maladive pour les spéculations et les controverses sur des mots qui conduisent à des jalousies. Peut-être que certains dans l'Église moderne devraient tenir compte de ces avertissements et se méfier de ceux qui considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. Le monde moderne, d'ailleurs, est presque une illustration du type de cette parole. L'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Une part de l'intérêt et de la valeur durable de la lettre se trouve dans la manière dont Paul fait référence au passé et en tire des conseils pour l'avenir. Ainsi, il rappelle le temps où il était avec Timothée et l'enseignement qu'il lui avait alors dispensé. Il l'exhorte à poursuivre dans la direction qui était alors recommandée. Il en est de même ailleurs. Les instructions que Paul a données dans le passé permettront à Timothée d'agir dans l'avenir. Paul parle de l'enseignement saint d'après la bonne nouvelle de la gloire du Dieu bienheureux. Il appelle Jésus le seul médiateur entre Dieu et les hommes et poursuit en disant qu'il a offert sa vie en rançon pour nous. C'est pour diffuser ce message que Paul a été institué prédicateur et apôtre pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. L'auteur affirme clairement que les événements constitutifs de l'Évangile forment la base de l'ensemble du message chrétien. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles se trouve Timothée, l'Évangile doit constituer le message qu'il proclame, l'Évangile que Paul a prêché et qui est au cœur de la vie et de l'ensemble de l'Église chrétienne. La lettre sonne comme un rappel. Il existe des vérités qui persistent d'âge en âge. Le sens de l'Évangile du Christ n'a pas à être modifié en fonction des intérêts des chrétiens qui vivent dans des circonstances très différentes de celles de Paul. 4 applications. Première, nous aurons toujours à lutter pour nous protéger de la fausse doctrine et des faux enseignements et des faux enseignants. Le meilleur moyen est une connaissance approfondie des doctrines fondamentales de la foi chrétienne et un attachement de plus en plus fort envers les saintes Écritures. Deuxième application, l'adoration publique est un acte d'une grande, très grande importance. Manifestons-le donc avec une attitude et un comportement exemplaire pour glorifier le Seigneur. Assurons-nous que tous les éléments de notre adoration soient bibliques. Troisièmement, il est essentiel pour l'Église locale d'exercer la discipline ecclésiastique. Elle protège le groupe d'une détérioration morale et doctrinale. Soyons vigilants et courageux dans son exercice. Prions pour que les exclus des assemblées se repentent et reviennent à la bergerie. Quatrièmement, assurons-nous toujours de la pureté de nos motivations dans tous les services que nous rendons dans l'Église locale. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué, béni et exalté éternellement. Amen.